BW. Vue d'Allemagne.
On dit de lui qu'il est le second découvreur de l'Amérique. Il y a 250 ans naissait le naturaliste allemand Alexander von Humboldt. Nous verrons avec l'historien Jakob Vogel comment il a marqué son époque et la nôtre. Dans la deuxième partie de ce magazine, direction le Brésil, où la communauté LGBT vit dans la peur sous la présidence de Jair Bolsonaro. Le Brésil, ce pays qui organise chaque année la plus grande gay pride au monde. Vous écoutez Vue d'Allemagne, willkommen et bienvenue. Les qualificatifs ne manquent pas pour évoquer la grandeur d'Alexander von Humboldt, né le 14 septembre 1769 à Berlin et dont l'Allemagne célèbre donc cette année le 250e anniversaire. Écologiste de la première heure, humaniste, idéaliste ou encore premier promoteur d'un monde global, le géographe et naturaliste allemand, qui a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans, a laissé son empreinte dans une multitude de domaines. Né dans une famille noble, son père est officier dans l'armée prussienne, Alexander von Humboldt démarre sa carrière comme ingénieur des mines et se fait facilement sa place parmi l'élite intellectuelle et scientifique à Berlin puis à Paris. Mais c'est une expédition en particulier qui fait sa renommée entre 1799 et 1804, celle qu'il effectue grâce à un financement de la couronne d'Espagne en Amérique. Jakob Vogel est historien et directeur du centre Marc Bloch à Berlin.
Au cours de son voyage, Alexander von Humboldt, qui à cette époque-là n'était que, disons, un aspirant à un poste d'associé à l'Académie des sciences parisienne, a reçu énormément d'aide de la part des scientifiques espagnols et latino-américaines. Et grâce à ces collectes des données qu'il a effectuées lui-même en Amérique latine et qu'il a pu recevoir de la part de ses collègues, il a pu envoyer énormément des matériaux à Paris qui, entre-temps, c'était la période napoléonienne, était devenu un peu le centre de gravité des scientifiques européens.
Pendant 5 ans, Alexander von Humboldt et son compagnon de voyage, le botaniste français Aimé Bonplan, sillonnent le continent de la forêt tropicale du Haut Orénoque, située dans l'actuel Venezuela, aux îles des Caraïbes, puis du Pérou vers le Mexique et les États-Unis. Ils font des relevés topographiques, collectent des spécimens botaniques et mènent diverses expériences en sismologie et en météorologie. Dans ses carnets personnels, Alexander von Humboldt a noté aussi des observations de voyage qui lui valent aujourd'hui une réputation d'humaniste. Il y critique notamment l'esclavage pratiqué par les colonisateurs espagnols sur les populations locales.
L'esclavage qu'il rencontrait comme un fait social très important dans ces pays d'Amérique latine, il l'a critiqué ouvertement dans ses écrits, mais très rarement envers ses interlocuteurs. Si on a quelques textes qui ont été publiés dans lesquels il s'exprimait contre l'esclavage, ils sont généralement beaucoup plus tardivement que son propre voyage en Amérique latine. Donc il y a une évolution aussi de sa pensée qui a naturellement beaucoup à voir aussi avec le mouvement de la libération nationale qui a été déclenché par les guerres napoléoniennes en Amérique latine. C'est ainsi aussi que son propre esprit évoluait, ce qui lui valait après donc cette mythologie humboldtienne au Mexique, dans d'autres parties d'Amérique latine qui ont persisté jusqu'à aujourd'hui en quelque sorte et qui nourrissent cette image du grand réformateur et du grand esprit libre et ouvert vers le monde.
C'est cette image d'ouverture que l'Allemagne met en avant pour célébrer le 250e anniversaire d'Alexander von Humboldt, une évolution compréhensible selon Jakob Vogel.
Je crois que pour l'Allemagne d'aujourd'hui, c'est très important de se référer à Humboldt pour se donner une image d'une nation qui à la fois se veut vraiment excellent dans les sciences naturelles et sciences humaines, mais en même temps aussi pour souligner l'ouverture envers le monde après des décennies où l'isolement était plus orienté vers les questions nationales, internes, la question de la réunification, et c'était un personnage idéal pour développer une telle vision de l'Allemagne.
Signe de l'importance du personnage, le gouvernement allemand a lancé il y a une dizaine d'années la construction d'un musée Humboldt au cœur de Berlin. Un musée dédié aux deux frères Humboldt, puisqu'Alexander avait un frère, Wilhelm, tout aussi illustre, et qui doit réunir les collections ethnographiques de la capitale. Le musée devait ouvrir ses portes cette année après une reconstruction complète de l'ancien château de Berlin, provisoirement Palais de la République en ex-RDA. Finalement, l'ouverture est annoncée pour 2020. Parmi les polémiques qui ont entouré la reconversion du bâtiment, il y a eu celle de son nom.
Il y a ceux qui veulent dédouaner Alexander von Humboldt de tous ses contacts de l'époque en les présentant comme une sorte de bourgeois noble, en quelque sorte, et dire non, il exprime l'esprit bourgeois de la science et d'autres, et républicain contre l'esclavage et tout ça. Donc enjoliver son image d'un côté, et il y a d'autres qui en même temps veulent les lier au colonialisme de la fin du 19e siècle, le colonialisme et impérialisme européen en Afrique notamment, bien qu'il était tout à fait lié au régime colonial espagnol, il n'était quand même pas du tout l'impérialiste de la fin du 19e siècle qu'on peut représenter dans des explorateurs comme Stanley par exemple en Afrique. Donc il y a vraiment une vraie ambivalence aussi dans cette polémique qui part d'un débat qui finalement passe à côté du personnage historique, et il est temps de le rendre hommage à sa juste mesure et en l'intégrant davantage dans cette histoire des circulations entre Europe et Amérique latine qui avait commencé avec la conquête européenne 3 siècles avant qu'il soit venu lui-même. Donc, il avait déjà à ce moment-là un long héritage.
Mais il a quand même participé au système colonialiste en rapportant notamment des ossements ou bien des objets de la vie quotidienne des populations qu'il avait étudiées tout de même.
Tout à fait, mais ça c'est le contexte normal, disons, d'un scientifique eurocentrique de cette période. Là, il ne se distinguait pas du tout de ses autres collègues et montrait aussi bien son côté réformateur politique, mais aussi d'homme ancré profondément dans une vision d'ancien régime à l'européenne et qui donnait aux scientifiques européennes toute une autre vision du monde que même les gens qui portraitaient comme des nobles sauvages, c'est-à-dire les différentes populations indiennes en Amérique latine. Mais ce n'est pas le même racisme que celui de la fin du 19e siècle qui intégrait un darwinisme social et d'autres visions plus biologisantes de la différence entre Européens et les autres.
Pourquoi est-ce qu'on a retenu Humboldt comme modèle et pas d'autres scientifiques qui sont venus après lui, qui ont aussi marqué l'histoire de l'Allemagne ?
En fait, Humboldt, par sa longévité, par le culte qui lui a été voué à la deuxième moitié du 19e siècle, déjà, il est devenu en Allemagne cet personnage clé. Il y avait en fait des associations Humboldt qui faisaient un peu la popularisation de la science et qui faisait référence à ce personnage presque mythique d'Alexander von Humboldt et son image plutôt romantique aussi de la nature. C'était très populaire dans les milieux des libéraux dans la deuxième moitié du 19e siècle en Allemagne. C'était un personnage que eux déjà présentaient comme une figure anti-monarchique et en occultant sa proximité avec la couronne. Donc c'est le bon Allemand déjà pour ces milieux des années 1850, 60, 70. Et ça s'est resté assez ancré dans la bourgeoisie allemande et dans les milieux intellectuels comme une image qui a perduré et qui peut expliquer donc pourquoi aujourd'hui on revient tellement volontiers à lui.
Merci à Jakob Fogel pour ses éclairages historiques sur Alexander von Humboldt et nous reviendrons dans un prochain numéro de Vue d'Allemagne sur l'ouverture du Humboldt Forum qui n'a pas fini de faire parler de lui. On parlait à l'instant de l'Amérique latine et c'est là que nous nous rendons à présent et plus précisément au Brésil. Une bande dessinée qui n'avait d'autre prétention que de participer à la Biennale du Livre organisée le week-end dernier à Rio de Janeiro est devenue en quelques jours le livre le plus acheté à la foire littéraire. La raison ? Le dessin d'un baiser gay entre deux hommes en couverture qui a déplu au maire de la ville. Celui-ci a demandé que le livre soit retiré des ventes en affirmant qu'il représentait une atteinte au statut de l'enfant et de l'adolescent. la justice n'a pas donné suite, considérant que le livre ne violait pas la loi. Il y a quelque temps, c'est une ministre du gouvernement de Jair Bolsonaro qui estimait que le dessin animé La Reine des Neiges favorisait l'homosexualité. Alors ces épisodes peuvent faire sourire, et pourtant les menaces du président brésilien contre les populations LGBT sont bien réelles. En juin, la Gay Pride, la plus grande au monde, a rassemblé plus de 3 millions de personnes à Sao Paulo. Mais au-delà de cet événement, l'inquiétude reste bien présente au quotidien pour les Brésiliens qui tentent de résister ou simplement d'exprimer librement leur identité. Le reportage à Sao Paulo de Marino Dacher.
Cette polémique illustre bien l'ampleur de l'homophobie qui se consolide au Brésil. Pourtant, en juin dernier, la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, avait pris le contre-pied des discours anti-gays proférés par le président Jair Bolsonaro en criminalisant l'homophobie. Jair Bolsonaro qui avait déclaré « Je préfère voir mon fils mort que de le voir revenir à la maison avec un moustachu ». Fin de citation. Dans ce contexte où les mots du chef d'État tentent de banaliser la violence contre les LGBT, c'est une décision importante pour la communauté. Mais si Bolsonaro se permet ses sorties homophobes, c'est aussi parce qu'elles reflètent ce que pense une partie des Brésiliens attachés aux valeurs religieuses et à une certaine vision de la famille. L'avenue Paulista était transformée en scène de danse avec la Gay Pride, de la musique à tue-tête, des drapeaux arc-en-ciel, des tenues extravagantes dignes du carnaval. La Parada Gay, la Gay Pride de São Paulo, ressemble à celle des grandes villes, sauf que le Brésil est le pays qui tue le plus de LGBT au monde, selon le groupe gay de Bahia, avec près de 400 meurtres en 2017. Des chiffres qui rendent à peine compte des violences quotidiennes. Derrière ses cheveux violets et ses joues d'adolescente, le regard de Keilani, 15 ans, n'est pas des plus joyeux. Il y a 2 ans, quand elle a dit à sa mère qu'elle était lesbienne, sa réaction a été sans appel.
Elle m'a battue et j'ai dû quitter la maison. Aujourd'hui, elle ne veut pas me parler. Elle a coupé tout lien avec sa propre fille. J'ai retrouvé une autre famille qui me soutient et qui accepte mon histoire. Mais ma mère, je peux être à la rue, peu importe.
Nos familles existent, c'est le mot dièse qui résume le cri des familles homoparentales. Marcella a choisi de raconter son histoire d'amour avec Mélanie et la naissance de leurs jumeaux dans un livre intitulé « Mama, récit de notre maternité homosexuelle ». Quand elle a cherché un livre sur les familles homoparentales, elle n'a rien trouvé dans les librairies brésiliennes, d'où l'importance à ses yeux de leur témoignage.
Nous sommes une famille de 2 lesbiennes, mariées, avec des enfants, donc c'est important que notre histoire puisse rendre plus forte d'autres familles, qu'elle puisse faire changer les regards et surtout résister contre ce gouvernement désastreux. Je sens des regards de défiance, des regards gênés, mais peu importe, je ne baisserai pas la tête. Et le livre est là pour ça, pour dire qu'on ne va ni s'excuser d'exister, ni se cacher dans l'armoire.
Pour avoir une idée du grand écart qui définit le Brésil sur les luttes LGBT, il suffit d'aller au Parlement de São Paulo. D'un côté, la députée Valéria Bolsonaro, parente du président d'extrême droite du même nom.
À mon avis, on ne peut pas penser aux minorités où tout le monde est égal ou personne n'est égal. C'est pas possible. Si on commence à se dire « lui il est gay, lui il est noir, lui il est indien », vous séparez les citoyens en petits groupes.
À quelques mètres de là, le bureau d'Erika Malunguinho, elle est la première députée transsexuelle du pays. Elle a été élue alors que le Brésil a porté à sa tête un président homophobe, mais selon elle, il ne faut pas penser la lutte pour les droits humains uniquement en opposition avec le chef d'État.
Le Brésil a toujours été le plus meurtrier pour les LGBT. Le Brésil a toujours été un pays extrêmement raciste. Mais je ne veux pas minimiser la gravité du moment actuel. Mais je veux qu'on soit cohérent pour ne pas croire qu'au départ de Bolsonaro, ces violences et ces maladies structurelles vont s'évaporer.
João Silvério Trevisan vient de fêter ses 75 ans. Il est l'auteur d'un ouvrage qui retrace l'histoire de l'homosexualité au Brésil. Devassos no Paraíso, les débauchés au paradis, c'est le titre de ce livre qui en est déjà à sa 4e réédition. D'après lui, il faut occuper tous les espaces possibles pour que les LGBT tiennent tête aux conservateurs. João Trevisan partage la vision de la députée Erika Malunguinho, même s'il observe que la prudence est plus que jamais de mise pour les couples homosexuels qui veulent simplement exister dans les espaces publics.
Comme dans tous les gouvernements conservateurs et même dictatoriaux, il y a un effet collatéral qu'ils ne veulent pas mais qui est inévitable. De plus en plus de gens ont une conscience critique. Si on capitule et oublie tout ce que nous avons acquis, alors Bolsonaro aura réussi ce qu'il voulait. C'est ce que j'appelle la résistance des vers luisants. Nous sommes comme eux. Plus la nuit est obscure, plus nous brillons.
On l'a vu très concrètement dans les rues de São Paulo quelques jours avant la Gay Pride, avec la gigantesque marche de Jésus qui avait rassemblé les évangéliques et les politiques. Jair Bolsonaro est le premier président à s'y rendre. Il y était déjà comme député l'an dernier et il a même déclaré « Tout le monde sait que le Brésil a de gros problèmes éthiques, moraux et économiques ». Pendant ce temps, plus de 13 millions de Brésiliens sont au chômage et après 8 mois de gouvernement Bolsonaro, aucun signal d'amélioration pour l'économie du pays. À São Paulo, Marino Dacher pour la Deutsche Welle.
Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Flotatalon pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss.
Anara etalona.